Nous sommes le lundi 2 décembre. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, le sud-est de la France, une nouvelle fois frappé par des pluies diluviennes, avec la mort de 5 personnes en quelques heures, dont 3 secouristes de la sécurité civile. Leur hélicoptère s'est écrasé hier soir entre Marseille et le Luc. Nous serons également à Mandelieu, où les habitants sont découragés. Tout ça en détail, Agnès, après les autres titres.
Au premier niveau précaution, de nombreuses écoles seront fermées jeudi et même vendredi, mobilisation contre la réforme des retraites. Un bon point pour les petits pays, un mauvais point pour les gros pollueurs. La COP25 s'ouvre aujourd'hui à Madrid. Une dent toute neuve en un seul rendez-vous, c'est désormais possible grâce à la 3D. Et puis fin du suspense ce soir pour le Ballon d'Or 2019, un indice LM.
Les invités d'Inter ce matin, 7h50, Léa.
Capital et idéologie, son nouveau livre sorti à la rentrée, s'est déjà vendu à plus de 100 000 exemplaires. Que pense le grand pourfendeur des inégalités de la réforme des retraites du gouvernement? On pose la question à Thomas Piketty. Il sera avec moi 7h50.
À tout à l'heure, Léa. 8h20, le grand entretien de la matinale avec le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, avec qui vous pouvez dialoguer 01 45 24 7000. Le standard est ouvert.
France Inter. En un peu plus d'une semaine, les intempéries dans le sud-est de la France ont donc coûté la vie à 11 personnes. Pas encore remis des pluies diluviennes du week-end précédent, les habitants du Var et des Alpes-Maritimes ont revécu hier des scènes de cauchemar, avec des cours d'eau tranquilles se transformant en quelques minutes en torrent. À Fréjus, le propriétaire d'une pension de chevaux sortie pour veiller sur ses animaux a été emporté par les eaux. Dans la commune de Saint-Paul-en-Forêt, un berger, lui aussi parti dans la nuit pour faire rentrer ses bêtes, a été emporté dans son véhicule alors qu'il tentait de franchir un gué. Et puis, 3 secouristes de la sécurité civile sont morts au cours d'une mission. Bonjour Yann Gallic.
Bonjour.
L'hélicoptère avait décollé de Marseille pour se rendre dans le Var.
En effet, cet hélicoptère de la sécurité civile venait de quitter la base de Marignane pour porter secours à des habitants touchés par les intempéries dans le Var. Il se dirigeait vers la commune du Luc afin d'assurer une mission de reconnaissance et de sauvetage, explique le ministère de l'Intérieur, lorsque les liaisons radio et radar avec l'appareil ont été brutalement rompu. L'hélicoptère s'est donc écrasé peu après son décollage. Il a été retrouvé vers 1h30 du matin au nord de Marseille, près de la commune du Rove, dans un massif de collines escarpées et rocailleuses. Les 3 occupants de l'appareil, le pilote, son copilote et un pompier du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, sont tous morts dans l'accident. L'équipage était déjà intervenu un peu plus tôt dans la journée pour des opérations d'élitroyage dans le Vaucluse. Reste maintenant à déterminer les causes exacte de ce crash. S'agit-il d'une défaillance technique ou d'une erreur de pilotage, sachant que les hélicoptères de type Dragon utilisés par la sécurité civile sont considérés comme fiables. A priori, cet accident ne serait pas forcément dû aux mauvaises conditions météo, puisque la ville de Marseille et ses alentours n'étaient pas placés en alerte rouge.
Merci Yann Gallic pour ces précisions. Dans les Alpes-Maritimes, ce sont les communes de Mandelieu, La Napoule et Cannes qui ont été les plus touchées, avec plusieurs quartiers inondés. Les établissements scolaires resteront d'ailleurs fermés aujourd'hui à Cannes, Pégomas et Mandelieu. Mandelieu où l'on retrouve l'envoyé spécial de France Inter, Jérôme Jadot. Jérôme, vous avez passé la nuit aux côtés d'une cinquantaine de sinistrés dans un hôtel. Des sinistrés désemparés, mais aussi excédés.
Oui, un désarroi, une exaspération hein, qu'on pouvait lire sur les visages de ces sinistrés arrivés ici tard hier soir. Quelques-uns en bottes, pieds nus pour un octogénaire, évacué en urgence. Nassim aussi a dû rapidement partir de chez lui.
Je suis en rez-de-jardin, moi. Voilà, c'est monté très vite. 1 mètre, 1m50. Troisième fois, là. Même pas un an. C'est fatigant.
Même fatigue pour Christian. 1m20 d'eau chez lui en 2015. 80 cm la semaine dernière, alors qu'il avait à peine terminé les travaux de réfection. Et à nouveau mouillé jusqu'à la taille hier.
On est dépité parce qu'on a déjà tout perdu, mais ça fait mal de revoir tout le temps ces images, voir sa maison salie, voir ses enfants pleurer. Pour le futur, je ne sais même pas si on va rester sur la commune. Et si on est en danger tous les hivers, ça ne peut plus continuer.
Un constat partagé par beaucoup de sinistrés ici, mais pour Geneviève et son mari, 76 ans, il n'y a pas de solution.
Voulez-vous qu'on aille? Ça fait 43 ans qu'on habite là. Puis c'est pas à nos âges, on va faire des crédits et tout pour acheter une autre maison. Hein. Monsieur le maire nous a dit qu'on allait envisager quelque chose, mais quoi? Il va me racheter la maison, il va m'en payer une autre.
D'autres habitants veulent encore espérer que des aménagements, des travaux permettraient de protéger leur maison. Tous redoutent en tout cas le moment où ils retourneront chez eux tout à l'heure découvrir l'étendue des dégâts.
Merci Jérôme Jadot. À Mandelieu pour France Inter. La bonne nouvelle ce matin, c'est que le pic de l'épisode pluvieux est maintenant passé selon Météo France. Le Var, les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône sont en vigilance orange. L'autoroute A8 coupée dans la soirée entre les deux départements a été rouverte dans la nuit. À la SNCF, le trafic des trains entre Toulon et Vintimille a également été interrompu hier après-midi. Il devrait reprendre dans la matinée.
Il est 7h05, Agnès. Le compte à rebours a commencé avant la mobilisation de jeudi contre la réforme des retraites.
Du côté du gouvernement, avec un séminaire hier en fin de journée à Matignon, tenu décontracté de rigueur pour les ministres invités à défendre une réforme juste et nécessaire tout en accompagnant les Français, selon les mots du Premier ministre. Les dernières conclusions seront annoncées dans 8 jours par Jean-Paul Delevoye, suivies quelques jours plus tard par les arbitrages d'Edouard Philippe. Du côté des syndicats, l'heure est à la préparation de la journée de jeudi, qui sera très suivie dans les transports, mais aussi dans l'éducation nationale. Le point avec Sonia Princey.
Si vous êtes parent, vous avez sans doute déjà reçu un mot dans le carnet de correspondance de votre enfant. Beaucoup d'enseignants du primaire ont prévenu les familles qu'ils seraient en grève. Nous pourrions atteindre les 70% de grévistes, précise le SNUIPP. Selon le premier syndicat du primaire, une école sur deux serait fermée. Un mouvement d'une telle ampleur ne s'était pas vu depuis 2010. À partir de demain, les rectorats auront plus de visibilité, puisque les professeurs des écoles doivent se déclarer grévistes 48 heures à l'avance. Les communes doivent organiser un service minimum d'accueil à partir de 25% de grévistes, à condition qu'elles aient les personnels pour cela. Or, les agents territoriaux des écoles maternelles, les animateurs, les cantinières pourraient aussi être en grève ou tout simplement ne pas pouvoir utiliser les transports pour se rendre à leur établissement. Il faut s'attendre aussi à de fortes perturbations dans les collèges et lycées où les personnels d'encadrement, les personnels des cantines et les professeurs, plus de 50% des professeurs, selon le syndicat SNES, seront également massivement mobilisés.
Après l'hommage de leurs frères d'armes sur la base militaire de Gao, après le recueillement des familles dans l'intimité hier, cérémonie d'hommage national cet après-midi aux Invalides. Emmanuel Macron, en présence de Nicolas Sarkozy et de François Hollande et de l'ensemble du gouvernement, présidera la cérémonie à partir de 15h dans la cour d'honneur où les cercueils des 13 soldats tués lundi dernier au Sahel seront recouverts du drapeau tricolore. Dans le Zoom de France Inter, tout à l'heure à 7h15, nous serons au Mali où la France intervient depuis 2013 pour lutter contre les groupes terroristes.
7h07, gros et petits pollueurs ont rendez-vous à Madrid pour la COP25.
Une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement attendus donc pour ce sommet climat des Nations Unies. Dernière étape avant le sommet de Glasgow l'an prochain où les pays signataires de l'accord de Paris devront présenter leur plan climat. En attendant donc, les ONG veulent mettre la pression sur les pays du G20 car s'il y a qui rit, si certains petits États font figure de bons élèves, les plus gros pollueurs restent à la traîne.
68 pays se sont déjà engagés à New York à réduire encore plus leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais ces États, le Mali, le Togo ou les îles Marshall dans le Pacifique, ne représentent que 8% des émissions mondiales. Alors qu'en face, les pays du G20, qui ne s'engagent pas pour le moment, sont responsables de 80% des émissions. Lucille Dufour du réseau Action Climat dénonce un déséquilibre flagrant.
Il nous reste 10 ans pour agir et limiter le réchauffement à 1,5 degré. Ces pays les plus émetteurs, la Chine, l'Inde, l'Union européenne, les États-Unis doivent augmenter leurs objectifs de réduction d'émissions. Ils doivent faire leur juste part de l'effort. On a besoin de cette réponse urgente et ambitieuse.
Or, les pays du Sud sont souvent les principales victimes du dérèglement climatique. Pour Armel Lecomte d'Oxfam France, les pays développés doivent les aider davantage.
Le Mozambique a été touché coup sur coup par 2 cyclones records au printemps dernier. Ça lui a coûté, en plus des vies évidemment humaines, 1/5 de son PIB. C'est l'équivalent, pour donner un ordre d'idée, de 23 ouragans Katrina qui auraient touché les États-Unis.
Les ONG estiment que les pays en développement ont besoin de 300 à 700 milliards de dollars d'ici 2030 pour compenser les dommages liés au changement climatique.
La COP25 se tient à Madrid jusqu'au 13 décembre et c'est à lire aussi sur franceinter.fr. La France renonce à livrer à la Libye 6 navires destinés à renforcer le contrôle de ses côtes. Décision justifiée par la situation dans le pays. Plusieurs ONG dénoncent des crimes contre les migrants. Le don de ces 6 embarcations semi-rigides avait été annoncé en début d'année par la ministre de la Défense et cela avait provoqué l'indignation des associations. En bref, encore, la Maison-Blanche refuse de participer à une audition du Congrès dénonçant une enquête injuste dans le cadre de la procédure de destitution ouverte contre Donald Trump. La 3D entre dans les cabinets dentaires et cela va nous faire gagner du temps. Il est en effet maintenant possible de produire une prothèse en quelques minutes et de repartir avec avec sa dent neuve en un seul rendez-vous. Une technique qui n'est pas encore utilisée dans tous les cabinets, mais cela arrive doucement, Véronique Julia.
Pour la pose d'un appareil dentaire ou le remplacement d'une dent abîmée, qui n'a pas déjà mordu quelques minutes dans une pâte épaisse et collante, à vous donner un haut-le-cœur. Cette empreinte pâteuse permettait ensuite de réaliser un plâtre sur lequel travaillait le prothésiste. Mais tout cela, c'est de l'histoire ancienne ou presque. Aujourd'hui, une petite caméra 3D suffit pour faire les empreintes. Christian Moussali est chirurgien dentiste.
Donc voilà le type de caméra qui est utilisée. Cet embout va être mis dans la bouche du patient et tout simplement va permettre d'enregistrer en trois dimensions les dents du patient.
L'opération dure quelques secondes. À l'écran, la dent est modélisée. On envoie ensuite l'image via Internet, soit au prothésiste, soit, et c'est là qu'on gagne un temps fou, directement à une sorte d'imprimante 3D, une usineuse qui va fabriquer, sculpter la nouvelle dent en un temps record.
On a une précision d'adaptation qui est de quelques microns. On peut lancer un usinage. Donc là, on a mis un bloc de céramique dans la machine et la machine va, par fraisage, tailler dans ce bloc en céramique pour réaliser la restauration.
Avec ça, on peut faire quoi ?
Inlay, onlay, bridge, couronne.
Ça prend combien de temps ?
11 minutes pour une dent complète.
Avantage pour le patient, il repart le jour même avec sa dent toute neuve au lieu de devoir enchaîner plusieurs rendez-vous. Aujourd'hui, à peine 10% des cabinets sont équipés d'un tel système intégré, mais ça devrait progresser assez vite. L'investissement reste coûteux, compté de 70 à 130 000 euros.
Véronique Julia, elle aime donc Nicolas comme Lionel Messi, favori chez les hommes, Megan Rapinoe chez les femmes, favori pour le Ballon d'Or 2019, cérémonie ce soir au Châtelet avec Didier Drogba en Monsieur Loyal. Lionel Messi qui s'est encore illustré hier soir en offrant la victoire à son club le Barça qui prend la tête du championnat espagnol. Lionel Messi qui a tout de même Cédric Guillou de sérieux concurrents.
Et chaque année, on retrouve souvent les mêmes favoris pour cette récompense suprême pour un footballeur. Les incontournables Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, 10 ballons d'or à eux deux, 5 chacun. Lionel Messi qui a décroché un 10e titre de champion d'Espagne avec le FC Barcelone, tout en étant meilleur buteur de la Liga pour la 6e fois de sa carrière. Cristiano Ronaldo, lui, vient de franchir la barre des 700 buts en carrière. Champion d'Italie avec la Juventus Turin, le Portugais a encore démontré tout son talent dans un nouveau championnat. Seul bémol pour ces deux joueurs, une élimination précoce avec leur club en Ligue des Champions. Sadio Mané, l'attaquant sénégalais, lui, l'a gagné la Champions League avec Liverpool. Il a aussi terminé co-meilleur buteur de la Première Ligue anglaise. Mané fait partie des outsiders pour ce Ballon d'Or 2019, tout comme le défenseur néerlandais Virgil van Dijk. Et contrairement aux quatre Français qui sont nommés, Mbappé, Griezmann, Benzema et Lloris, aucun d'entre eux ne sera sur le podium.
Voilà, 64e cérémonie du Ballon d'Or, c'est ce soir au Châtelet.
Merci Agnès Soubirant.